Bonjour à tous. Alors, je me présente, je suis Ludovic Borde. J'ai créé ma société il y a 2 ans en sortant d'HEC. L'objectif est d'aider les organisateurs d'événements et les vendeurs de billetterie à exploiter les données qu'ils récupèrent sur leur public et sur l'ensemble des données de vente qu'ils obtiennent via la billetterie en ligne et via la billetterie au guichet. Donc, on a avec mon associé une formation de statisticien. Donc, on souhaite mettre à la disposition des organisateurs d'événements, des théâtres, des festivals, des opéras, et de plein de structures, même les stations de ski ou les clubs de sport, des outils et des méthodes très pratiques pour vous aider à analyser vos bases de données clients et vos données CRM.
D'accord. Donc, et moi, bonjour, donc Christine Petre, je suis enseignant-chercheur. Si vous m'entendez bien. Donc bonjour, oui, Christine Petre, je suis enseignante-chercheur à l'Université de Bretagne Sud, donc sur le campus qui est à Vannes. J'ai une formation de sciences de gestion, plus spécifiquement en marketing, et depuis le début, mes travaux de recherche sont sur le comportement du consommateur, sur le temps de loisir, ce qui implique évidemment donc des consommations et des pratiques culturelles et aussi des pratiques touristiques. Donc c'est dans ce contexte-là que je vais participer à cet échange. Je pense que pour démarrer, je vais faire la gentille secrétaire et je vais donc nous présenter en fait le plan de notre intervention. Donc en premier lieu, c'était de parler un petit peu donc CRM et GRC, donc la connaissance ou GRS d'ailleurs, ça fait un peu sportif, mais bon, c'est pas le cas. Donc tout ce qui est connaissance des spectateurs comme clé d'action. On parlera ensuite des freins subjectifs et objectifs des stratégies CRM, donc c'est plutôt Ludovic qui va aborder ça. On parlera aussi des données spectateurs et de la dimension open data qui offre de plus en plus de richesse d'informations. De nouveau, je redonnerai la parole à mon collègue. Pour ensuite parler un petit peu des ancrages théoriques de l'utilisation de la connaissance spectateur. Alors je vais le présenter un petit peu en faisant référence à ce qui se dit dans la littérature plus en marketing de la culture et non pas marketing culturel. Et on parlera ensuite des modalités pratiques d'une stratégie CRM de manière un petit peu en dialogue, l'un et l'autre. Et puis on insistera, et c'est Ludovic qui insistera là-dessus, sur les problèmes de la déontologie, des bonnes pratiques à avoir et du respect donc de la vie privée quand on engage ces démarches où on cherche de l'information sur les spectateurs. Alors, toi, moi, comment on s'organise ?
Pour expliquer rapidement déjà le terme de CRM à ceux qui ne sont pas complètement familiers, l'idée du CRM, c'est de réfléchir sur la notion de relation avec le public du point de vue de la communication ciblée. Il y a beaucoup d'industries aujourd'hui qui travaillent vis-à-vis des données clients en essayant d'adapter ce qui s'appelle le marketing dans certaines industries ou plutôt la relation publique dans d'autres, à la consommation et à la manière d'interagir avec chacun en fonction de sa manière de consommer. Donc c'est ce qu'on a résumé un peu dans cette notion de CRM ou GRC. L'idée globale est quand même de dire, vous avez deux stratégies par rapport à vos publics. La conquête de public, qui va être de sortir des nouveaux publics par rapport à votre base de données existante, et la fidélisation en essayant de faire ce qu'on appelle de l'upsell, c'est-à-dire vendre davantage aux acteurs qui sont déjà dans la base de données ou en essayant de pérenniser leur comportement et pérenniser leur consommation.
Donc juste pour compléter un petit peu, c'est que la traduction de ce qui était défini au départ au niveau anglo-saxon, c'est Customer Relationship Management, donc avoir vraiment une relation, gérer cette relation que l'on peut avoir avec ses consommateurs ou ici avec des clients, des spectateurs, des usagers selon la terminologie qu'on préfère utiliser. Et la traduction française, c'est gestion de la relation client. Et quand on va donc être dans le spectacle vivant, on va penser à gestion de la relation spectateur, ce qui pour ça fait GRS, c'est discutable. Vous avez tous régulièrement entendu parler du fait que c'était beaucoup plus pertinent ou beaucoup plus facile de conserver une personne avec qui on est déjà en relation que d'essayer de nouer de nouvelles relations. Et donc, à partir de là, c'est le principe même de ces techniques de CRM, GRS, GRC. C'est-à-dire que essayons de partir de capitaliser sur notre relation déjà existante pour l'affermir, pour aller vers quelque chose de plus fort, de plus important, de plus impliquant au niveau affectif, puisqu'il y a même des travaux en comportement du consommateur qui parlent de l'amour de l'enseigne, de l'amour de la marque. Hein, donc on est vraiment dans des relations très fortes. Et c'est beaucoup plus pertinent que d'être constamment en train d'essayer de trouver de nouveaux spectateurs et d'être constamment en train de se dire « je vais faire venir de nouvelles personnes ». D'autant plus qu'un établissement de spectacle vivant, il est sur ce qu'on va appeler une aire de chalandise, c'est-à-dire sur une zone géographique. Et quand on, voilà, au bout d'un moment, il vaut mieux essayer de bien s'entendre avec ceux qui sont déjà un peu convaincus de l'intérêt de ce que vous proposez dans vos établissements.
J'imagine qu'en tant qu'établissement de spectacle vivant, vous devez vous être déjà posé la question, est-ce que mon public va venir pour cette pièce que je passe ou est-ce qu'il vient pour ma structure ? Et c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de structures qui aujourd'hui essayent de travailler sur cette notion de création d'identité de marque seulement sur la structure physique, et certains publics viennent seulement parce qu'ils savent qu'il y a une pièce qui passe dans tel et tel théâtre, dans tel et tel scène nationale, et sans savoir vraiment quelle est la pièce exactement qu'ils vont venir à laquelle ils vont venir assister. Donc il y a vraiment une idée de, c'est là qu'on se rapproche de la notion de marketing, de mise en place d'une création de marque autour de la structure.
Alors, puisqu'on parle de marketing, c'est un peu l'occasion de parler de cette affreuse discipline qui ose s'emparer ou en essayer de se rendre utile auprès des professionnels de la culture. Alors, de manière assez caricaturale, on pourrait dire qu'il y a eu trois temps, ou en tout cas, il y a eu trois grandes époques dans ce qu'on appelle le marketing de la culture. Donc déjà, le marketing, c'est un marketing de la culture, c'est pas un marketing culturel. Le marketing n'est pas culturel, c'est un marketing, c'est une boîte à outils qu'on utilise pour servir les ambitions d'une activité culturelle. La préhistoire de ce marketing de la culture, c'est de se dire, on va essayer de connaître le public pour essayer de remplir nos ambitions de démocratisation, d'essayer de faire d'élargir le public, d'aller vers les jeunes, qu'est-ce qui plaît aux jeunes, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, ainsi de suite. Donc c'est essayer de mieux le connaître pour ensuite savoir comment lui parler de manière adéquate, donc à la fois mesurer des élargissements de public. Les premiers départements publics qui ont existé dans les établissements, c'est aussi simplement pour démontrer que oui, on va aussi vers les ouvriers, oui, on va aussi vers les employés. Donc il y a vraiment cette problématique, on va dire un peu quantitative, j'aurais tendance à dire, pour objectiver et démontrer que toutes les actions qui sont menées en termes de médiation culturelle, en termes de communication culturelle, elles ont du sens puisqu'elles permettent de faire venir des gens qui ne venaient pas dans les établissements. Alors, ce serait un peu ce qu'on peut appeler la préhistoire du marketing de la culture. Si on parle maintenant de l'histoire du marketing de la culture, c'est déjà l'idée qu'on va essayer d'adapter l'offre périphérique. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yves Évrard, qui est professeur à HEC, enfin qui est professeur émérite. C'est le premier à s'être professeur de marketing en France à s'intéresser à la culture. Et ce qu'il a dit depuis le début, et c'est fondamental, c'est bien pour ça que le marketing est une boîte à outils, c'est que le marketing de la culture, c'est un marketing de la médiation. On ne travaille pas l'offre culturelle, on ne dit pas aux artistes ce qu'ils doivent construire sur la base de ce que les gens veulent ou voudraient ou ce qu'on peut fantasmer quand on imagine des choses sur le marketing. On essaye de travailler sur les moyens de favoriser la relation entre des œuvres, des artistes et de l'autre côté des publics. Donc on est bien sur un marketing de la médiation. On est bien aussi sur l'idée d'un marketing de l'offre artistique. Il y a une offre artistique, où peut-on trouver le public pour qui ça a du sens, qui a envie de venir, et est-ce qu'on peut effectivement un peu le convaincre en lui disant que oui, ça peut être pour vous, c'est aussi légitime pour vous de venir dans ces lieux-là. Donc il y a cette idée d'adapter l'offre périphérique, de travailler sur les services associés, on ne change pas tel artiste pour qu'il plaise ou qu'il ne plaise pas, on est bien dans du spectacle vivant, on n'est pas dans de l'industrie culturelle avec l'idée de faire un blockbuster pour faire des ventes. On peut créer des produits dérivés, c'est un moyen de gagner de l'argent autour d'une offre culturelle principale. Et puis l'idée, c'est donc comment bien identifier et savoir comment informer les publics en les touchant de la bonne manière. C'est-à-dire que parfois, ne serait-ce qu'en termes de discours, il faut simplement savoir changer le lexique qu'on utilise pour être mieux compris et c'est pourtant la même offre que l'on va proposer. C'est pas parce qu'on joue Phèdre que l'on ne peut pas avoir des jeunes qui viennent, c'est-à-dire à part ceux qui sont venus parce que leur prof de français les oblige, mais on peut aussi simplement parce que ce sont des histoires de vie, ce sont des drames, ça raconte des vies, des choses de la vie et qui forcément touchent tout le monde. Tout dépend de la manière dont on le présente. Donc il y a cette idée-là. Et puis effectivement, il y a quand même l'objectif de vendre des billets et puis de promouvoir des œuvres. Il y a quand même une partie qui devient de plus en plus saillante où il faut avoir un petit peu essayer de rentabiliser ça. Le marketing culturel contemporain. Alors il n'est pas nouveau, il applique. C'est tout simplement dans le secteur culturel, on va réappliquer quelque chose qu'on connaît dans le secteur commercial le plus général possible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne vend plus des produits, des offres, quelque chose de ponctuel. On est sorti d'une dimension transactionnelle, c'est-à-dire je veux vous vendre quelque chose quitte à ce que tous les moyens sont bons, et ça c'est du commercial, c'est pas du marketing, c'est-à-dire que je veux vous vendre quelque chose là, un instant T, et peu importe ce qui se passe demain. Ce qu'on veut, c'est mettre en place une relation avec justement cette notion d'affect, de lien, d'attachement à l'établissement, d'attachement à l'artiste, etc. Donc on est passé de l'idée du marketing transactionnel à l'idée du marketing relationnel. On veut vendre, valoriser, promouvoir, favoriser l'établissement d'une relation. Donc soit entre des artistes et des publics, soit entre un établissement et aussi les publics. Comment va-t-on les amener, créer une identité dans de lieux culturels qui fait que quand on va dans tel lieu, on sait qu'on va trouver tel genre d'offre, et c'est pour ça que ça me plaît. Et c'est aussi parce que dans ce lieu, on va me proposer de temps en temps des choses un peu différentes que ça m'intéresse aussi de venir dans cet établissement-là. Donc aujourd'hui, le marketing culturel relationnel avec ce CRM n'a rien d'étonnant, n'a rien de nouveau, n'a rien de spécifique à la culture. C'est une tendance générale qu'on trouve dans tous les secteurs. En fait, pour faire simple, aujourd'hui, on vous vend des expériences, on vous vend de la relation aux marques, et ça, dans le domaine du spectacle vivant, comme pour vendre des voitures, si on voulait. Alors, si on devait réappliquer ça en termes de parcours, donc puisqu'on est en train de vendre des relations, ce qu'on essaye de vendre, c'est aussi un cycle de vie, un parcours du spectateur. Et ça, c'est des choses qui, évidemment, vous parlent beaucoup, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui de ce parcours du spectateur. Donc l'idée, c'est que puisque nous devons établir une relation, il faut qu'on ait une démarche proactive. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre qu'il se passe des choses, on va essayer d'accompagner cette relation. Donc ça veut dire qu'on veut fidéliser notre spectateur à l'établissement, on veut essayer de favoriser un spectateur culturel omnivore. Il faut pas, nous avons nos monomaniaques qui n'aiment que ce qui est dramatique, du classique. Eh bien non, on va essayer de lui donner envie d'aller découvrir d'autres choses au sein de notre établissement, d'autres artistes. Enfin, c'est vraiment la démarche. Et puis, dans l'idéal, le rêve, c'est qu'on arrive à créer de la co-création, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir des publics tellement fans, qui trouvent tellement bien, qui vont faire des commentaires sur le profil Facebook, si on en a un, mais qui pourraient aller même plus loin. Certains parlent, Pine et Gilmore, par exemple, parlent de ce marketing co-créationnel, on a un public qui devient tellement fan qui va créer un site internet pour parler de tel artiste, et que finalement il fait votre travail de promotion. Et ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est possible à partir du moment où il y a justement de l'affect et qu'on apprécie ce qu'on fait. Donc, à côté de cette ambition d'avoir une démarche proactive, il y a des outils, des techniques. Et ces techniques, c'est tout ce qui est système, un système d'information, tout ce qu'on peut mettre en place au sein de une stratégie, un système qu'on peut mettre en place pour formaliser ce parcours. Et donc, on est bien dans l'idée d'un cycle de vie du spectateur. Au départ, je connais peu. J'ai peut-être un peu peur de l'établissement. Je ne comprends pas grand-chose. C'est compliqué. Ça m'a l'air intellectuel. Ça m'a l'air pas pour moi. Et progressivement, j'ai développé un goût, une petite expertise, un goût de plus en plus personnel. Et je vais finir par m'inscrire dans une relation où je vais connaître les gens, je vais repérer les gens de l'accueil. Il va se créer petit à petit ce cycle de vie du spectateur que l'on cherche à avoir. Et donc d'avoir un spectateur culturel, mais dans le sens le plus large possible. C'est-à-dire que je ne viens plus pour voir un artiste parce qu'il est connu et parce qu'il est passé à la télé ou parce que ma prof de français m'a dit qu'il fallait le voir, mais parce que j'aime découvrir des choses. Donc c'est cette idée d'évolution. Alors parlons cependant de tous ces freins subjectifs et objectifs à la mise en place du CRM côté établissement.
Alors on a déterminé avec Christine quatre freins principaux qui souvent remontent des différentes structures. Alors vous n'êtes pas forcément concerné par tous les freins, mais on a essayé de mapper un peu les différentes sources de freins. La première source de frein, elle est éthique, et on pourra en discuter à la fin. Peut-être que la relation, le marketing de la culture, la relation avec les publics personnalisée, on a peut-être peur que ça rentre dans la vie privée de chacun de ces spectateurs. Donc aujourd'hui, il y a des stratégies qui existent pour éviter ces dérives, mais ça peut être une peur intuitive parce qu'on a été sans doute victime nous-mêmes en tant que consommateurs de telle ou telle marque, d'un démarchage massif, d'un mailing peu ciblé, ce qui détruit relativement la relation à la marque. Historiquement, dans le milieu culturel par rapport à d'autres industries, la donnée vis-à-vis des publics, la donnée d'achat, la donnée relative aux clients, c'est-à-dire son nom, son prénom, son adresse email, son code postal, et la gestion de cette donnée, c'est quelque chose qui fait pas partie des points intuitifs. Donc beaucoup de structures commencent à regarder ces bases de données publiques, ces bases de données clients, ces bases de données d'achat, où on va, alors ça va être très très dépendant des structures. Il y a des structures qui sont très très en avance sur ce sujet, d'autres commencent à réaliser qu'elles récupèrent des données sur ces publics et elles se posent la question de l'activation. En tant que fournisseur de technologies sur ce sujet, notre société a rencontré beaucoup de logiciels billetterie et qui équipent la plupart de vos salles de spectacle. Et souvent, il y a une certaine, fermeture de ces logiciels billetterie à vous fournir, en tant qu'établissement de spectacle vivant, l'ensemble des données de manière simple. Donc c'est quelque chose qui progresse au cours du temps. Mais de plus en plus, les responsables billetterie, les responsables relations publiques demandent à leur logiciel billetterie de leur envoyer des exports de données, et c'est compliqué. Et nous, on s'en est rendu compte parce que les organisateurs d'événements, les salles nous ont donné la possibilité, la liberté, le droit d'analyser leurs données. Et pour nous, ça a été la croix et la bannière pour taper à la porte des logiciels billetterie et leur dire « Votre client nous a dit oui, on peut les avoir ?» Et là, il y a 6 mois de réflexion. Et enfin, d'un point de vue technologique, si ces outils récupèrent des données aujourd'hui, pour autant, ils ne vous donnent pas les moyens de les exploiter en quelques clics. Parce qu'ils vont peut-être vous donner l'export des données, mais vous n'avez pas fait un doctorat de statistique, et ce n'est pas forcément votre métier aujourd'hui. Il y existe peu de technologies sur le marché, technologies de CRM adaptées au spectacle vivant, ou des technologies qui permettent d'analyser vos ventes, de faire des prévisions de ventes. Toutes ces technologies, elles sont peu existantes aujourd'hui sur le marché. Alors l'idée des données sur lesquelles on a eu l'habitude de travailler, qui sont des bases de données pour vous, on distingue vraiment deux types de données. Déjà, toutes vos données historiques, c'est-à-dire toutes vos données de vente que vous accumulez dans votre logiciel billetterie depuis plusieurs saisons, que vous n'avez pas forcément regardé. Ça, pour nous, statisticiens, ça représente et pour n'importe quelle structure qui souhaite progresser dans la relation avec ses publics, ça représente une mine d'or de grande valeur. Donc c'est vraiment l'historique de vos achats, très simplement, c'est-à-dire une date d'achat, une heure d'achat, un canal d'achat, un nom, prénom, un mail, peut-être un code postal si vous le demandez, le sexe peut-être, l'âge, si vraiment vous êtes allé loin. Et l'ensemble des catégories d'achat et des spectacles correspondants. Donc ça, c'est des données historiques qu'on aime bien valoriser. Et puis, au-delà de ça, on récupère ce qui s'appelle des données exogènes, c'est-à-dire des données extérieures, qui sont en mesure d'expliquer la fréquentation d'une pièce de théâtre. Par exemple, il y a certaines pièces de théâtre, la météo peut avoir un impact. On s'en est rendu compte. De manière générale, de toute manière, dans le marché du e-commerce, donc la billetterie en ligne, même du e-commerce en général, les achats augmentent de 40% les week-ends où il ne fait pas beau. Donc ça, c'est quelque chose qui c'est une statistique qui peut avoir un impact direct sur vous dans votre communication, en disant quand est-ce que je vais envoyer mon mail qui va annoncer la prochaine saison. Est-ce que je vais l'envoyer le samedi ou est-ce que je vais l'envoyer le mardi? Deuxièmement, on va analyser les horaires d'achat. C'est hyper simple. Hein. Là, on va juste mettre bout à bout toutes les horaires d'achat. On va faire des créneaux. On va dire, bah, les gens, ils achètent plutôt entre 2h et 3h du matin, entre midi et 1h ou entre 17 et 18. Il y a vraiment des biais qui sont très, très forts. Et donc, rien que pour de la communication, pour l'ouverture d'un mail ou l'ouverture d'un SMS, il y a des horaires qui sont favorisés sur différents créneaux. Donc voilà, c'est l'idée de, donc ça c'est l'idée de la météo, l'idée des horaires d'ouverture. Et puis on va récupérer typiquement, automatiquement, sur Google Trends par exemple, le nombre de recherches Google sur les 6 derniers mois d'un artiste. Ça peut expliquer l'évolution de la notoriété d'un artiste, qui peut être en lien avec le nombre de réservations que vous allez avoir pour telle et telle pièce de théâtre. On peut également récupérer des vacances scolaires. Les vacances scolaires, c'est aussi quelque chose que... Toutes ces données, en fait, elles sont intuitives pour vous, parce que vous avez l'habitude de maîtriser vos publics, vous avez une bonne idée de est-ce que cette pièce va être réussie, va être pleine, va être vide, comment est-ce que je vais la gérer. L'idée d'avoir des outils technologiques, c'est de vous aider à rationaliser ces décisions et surtout les pérenniser dans le temps, qu'elles soient plus seulement dans votre connaissance, je dirais, intuitive, mais d'avoir des données objectives que toute la structure de toute la salle puisse exploiter. Alors je mettais aussi quelques chiffres sur ce qui s'appelle le big data. Donc c'est un sujet qu'on aime bien. Vous devez l'entendre un peu partout dans les médias en ce moment. La notion de big data, donc c'est des volumes de données qui augmentent tous les ans via plein de canaux. Et là, je ne vous ai pas encore parlé des réseaux sociaux, qui sont des données extrêmement importantes que nous, chez Tech4Team, on n'utilise pas encore, puisque ce ne sont pas des données nominatives, ce ne sont pas des données d'achat. Ce sont des données essentiellement de navigation. Il y a des sociétés qui sont spécialisées sur le sujet. On a considéré qu'en analysant déjà toutes vos données d'achat, ça représentait une masse de travail et un potentiel de relations publiques améliorées significatif.
Alors, juste quelques, on va dire cinq petits focus sur l'intérêt de toute cette connaissance spectateur par rapport à les littératures et ce qu'on peut voir et des choses que vous connaissez dans vos pratiques. Donc, la première phrase un peu clé, c'est de dire c'est le premier pas qui coûte. En fait, c'est simplement la théorie de l'engagement qui est à mobiliser, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que d'amener le spectateur, lié à ma pratique. En tout cas, c'est l'idée d'amener le spectateur à avoir, ou le prospect, enfin le futur spectateur, à avoir une première consommation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu un premier démarrage, qu'on a commencé, à ce moment-là, il est toujours beaucoup plus difficile de faire marche arrière. On a commencé à aller dans un établissement, on peut commencer à le découvrir, à l'apprécier. Donc, par rapport à ces techniques, en tout cas, la théorie de l'engagement appelle à un certain nombre de techniques en psychologie cognitive, de manière à mobiliser les individus pour qu'ils s'engagent dans l'action. Donc peut-être connaissez-vous ou avez-vous eu la malchance de rencontrer des vendeurs qui utilisent des techniques comme le pied dans la porte ou la porte dans la figure. Donc c'est plusieurs techniques qui sont utilisées, alors j'insiste, pas en marketing, en psychologie cognitive, que les choses soient bien claires, qui sont en fait des manières d'essayer d'engager l'individu à rentrer dans l'action. C'est-à-dire on cesse de procrastiner en se disant un jour j'irai au théâtre voir ceci ou ce serait bien que, etc. Mais c'est de l'engager, de le favoriser à agir aujourd'hui et tout de suite. Et on sait qu'une fois qu'il a fait un premier pas dans une démarche d'action pour aller vers un établissement, ça peut être ne serait-ce que d'avoir cliqué sur le lien pour avoir une information plus précise. C'est toujours plus difficile de se décider à arrêter que de continuer à chercher de l'information. Donc, en fait, c'est les techniques qui sont liées à la théorie de l'engagement et à cette idée qu'une fois qu'on a commencé une action, c'est plus difficile de faire marche arrière. Donc, ça peut être des choses que l'on peut mobiliser pour essayer d'amener quelqu'un qui, a priori, n'aurait pas trop envie sur quelque chose de peu compliqué. Donc, ça, c'est le pied dans la porte, quelque chose de plus peu compliqué. Est-ce que vous souhaitez avoir plus d'informations ? Au lieu de donner toute l'information sur votre site internet, déjà encore faut-il arriver sur le site internet, mais à un endroit ou à un autre, qu'on puisse cliquer, avoir une info et on peut aller un petit peu plus loin. Donc, et de fil en aiguille, on peut rentrer dans l'idée d'aller jusqu'à se projeter dans l'idée d'aller voir un spectacle. Donc, il y a des techniques qui existent sur cette théorie de l'engagement et l'idée du premier pas qui coûte. Donc, éviter de faire ce premier pas qui ne semble pas coûteux. Et à partir de là, les individus peuvent aller découvrir. J'aurais tendance à dire que là, en termes de parallèle, vous pouvez avoir deux idées. C'est qu'on peut aussi proposer des prédécouvertes, des choses qui sont de l'ordre de l'échantillonnage. Mais vous le savez bien, on présente une vidéo, un extrait, ça donne un peu envie. C'est le principe qu'il y a des bandes-annonces. Ça vous donne pour le cinéma, ça vous donne un peu envie, ça vous donne une idée, ça vous fait un peu découvrir. La deuxième idée de pourquoi essayer de mieux connaître la psychologie et la sociologie du consommateur, c'est de se dire que la culture, c'est une addiction qui fait du bien. Il faut savoir qu'en termes de définition, on considère que la culture est une consommation addictive. Plus on consomme, plus on a envie de consommer. Plus je vais voir un spectacle, plus j'ai envie d'aller en voir d'autres, plus ça me donne envie. À la différence de l'alimentation, on arrive vite à satiété. Au contraire, la culture, on rentre dans une démarche, je consomme un peu, ça me donne envie d'aller un peu plus et un peu plus. Donc la culture, c'est une consommation addictive. Peut-être que ce serait interdit si c'était aujourd'hui inventé. Mais en tout cas, la consommation culturelle, c'est une consommation addictive qui fait du bien. Donc il faut essayer de favoriser toutes les techniques, entre guillemets, d'échantillonnage, proposer des échantillons, aimer à faire... Enfin, faire découvrir, goûter un peu, c'est le principe quand on a des concerts sandwich qui sont proposés, c'est quand on va vous faire des petits bouts de films qu'on fait voir, des vidéos par rapport au spectacle, quand on va, voilà, c'est d'amener tout ce qui peut faire goûter et donner envie. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas goûté un gâteau au chocolat, on ne sait pas que c'est bon. Si on commence à en avoir une petite bouchée, on va apprécier, on va se dire que ah, finalement, c'est pas mal, ça mérite peut-être qu'on y consacre un peu plus d'attention. La troisième idée, c'est que les portefeuilles de produits sont morts. On ne parle plus aujourd'hui, les entreprises de manière générale, ne parlent plus de portefeuilles de produits, mais parlent de portefeuilles de clientèle. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter à des portefeuilles de clientèle. On ne vend plus des produits, on ne vend plus des spectacles. Ce qu'on veut vendre, c'est ce que l'on a, en tout cas à gérer en termes d'établissement. C'est l'idée qu'on a des portefeuilles de clientèle. Vous avez des spectateurs seniors, vous avez des spectateurs jeunes. Et comment les accompagner? On n'a pas régulièrement des jeunes. On a des jeunes qui grandissent, qui sont venus une première fois, peut-être avec la prof de français, peut-être avec le prof d'histoire si c'était sur une thématique, et que de ces élèves qui sont venus une première fois, il faut être dans la logique de la capitalisation. Il s'est passé un premier échange, il faut donc aller un peu plus loin. Il faut penser portefeuille de spectateurs, qu'il y a des segments de spectateurs et qu'ils vous accompagnent et qu'éventuellement, oui, il faut peut-être évoluer en fonction de ces spectateurs, évoluer en fonction... Alors, je ne dis pas qu'il faut changer tout, je ne dis pas qu'il faut changer vos programmations, mais ça veut dire qu'il y a des réflexions à avoir par rapport à des habitudes qu'ils prennent aussi. Ils connaissent mieux l'établissement, on n'a peut-être pas besoin de faire exactement tous les mêmes protocoles de passer par l'inscription, etc. Ce qui est assez dramatique dans cette logique des portefeuilles clients ou spectateurs, c'est typiquement l'abonnement où il faut tout re-remplir en début de saison. C'est quand même catastrophique. Vous êtes bien d'accord? Il n'y a rien de plus agaçant. On se retrouve c'est comme si on était à la sécurité sociale en train de refaire les dossiers. Donc là, il y a vraiment un travail à faire en se disant créons un historique et travaillons sur cette idée d'historique et qu'on ne traite pas les gens de la même manière par rapport à ça. Et puis ça rebondit de nouveau sur l'idée d'un cycle de vie du spectateur. Il y a des gens qui rentrent dans la relation spectateur avec votre établissement. Il y en a qui vont sortir, c'est normal, mais au moins que ceux qui sont là. Au départ, il faut faire beaucoup d'efforts, beaucoup d'attention pour les accompagner dans la relation. Puis au bout d'un moment, ils savent comment ça se passe, ils savent comment réserver, ils savent où est la salle, ils n'ont pas besoin qu'on les aide et tout va bien. Et ça devient des individus pour qui on n'a pas besoin d'autant d'efforts, de médiation, d'accompagnement dans la découverte de vos offres. La quatrième idée, c'est que on dit que le lien vaut bien plus que le bien. C'est-à-dire que ce qui va jouer, c'est la dimension sociale. C'est-à-dire que rares sont les spectateurs qui viennent tout seuls. En général, ils sont accompagnés. Et un des premiers freins, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie, un des premiers freins qui est évoqué pour dire pourquoi est-ce qu'on ne va pas dans les établissements de spectacles vivants ou aussi pareil pour le patrimoine, musées, monuments, c'est parce qu'on n'a personne avec qui aller. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un potentiel pour créer cette idée d'une communauté ou en tout cas des, peut-être des intranets. Donc là, quand on est dans le CRM, on est pile poil là-dessus. Est-ce qu'on ne peut pas proposer des communautés? Ce n'est pas du mythique, mais c'est du spectacle-tique, si on voulait inventer ça, de manière à leur permettre de se retrouver, de ne pas être seul. C'est simplement que on a tous le plaisir de pouvoir, même si on sort de la salle et pendant les premières secondes, on ne dit rien parce qu'on est en train d'incorporer ce qu'on vient de vivre, parce que c'est resté personnel, il y a un moment où on va en parler, on va dire « Ah oui, t'as vu, tu te souviens, etc. » Et ce côté convivial, partagé, est fondamental. Donc le lien, que ce soit le lien avec l'établissement, mais c'est le lien aussi avec les autres spectateurs, est important. On sait, en termes de spectacle, on sait aussi que, justement, ce public qui est face à l'artiste qui est sur scène, ça va impacter sa manière d'être. Il y a des travaux qui ont été faits au Théâtre National de Bretagne avec l'école d'éthologie, enfin, les chercheurs en éthologie, qui a consisté à appareiller les spectateurs, leur mettre des capteurs pour voir ce qu'ils ressentent, en même temps qu'on appareillait des artistes, des comédiens, de voir comment ils se créent quelque chose. Donc on est bien sur du lien, c'est-à-dire quelque chose qui ne se dit pas, qui ne se voit pas, mais qui est ressenti parce que nous sommes des animaux grégaires et des animaux, c'est-à-dire qu'on réagit de manière physiologique. Donc le lien est important et il faut capitaliser sur ce lien, favoriser, peut-être mettre les individus dans cet univers qu'est l'établissement de spectacle vivant. C'est pour ça qu'on sait que c'est important de mettre un bar à la fin. Vous n'êtes pas obligé de vendre de l'alcool, mais vous pouvez au moins proposer un lieu d'échange, un lieu de discussion et qu'on puisse rentrer quelques minutes avant. Enfin, voilà. Toute cette réflexion autour du marketing, de l'expérience, des moments de sensorialité, de convivialité à vivre avant et un petit peu après. Donc ça, c'est important. Et puis, vous savez déjà faire, suffit de continuer en définitive. Le dernier point, c'est méfiez-vous des bons clients. On sait que le client fidèle, celui qui est abonné depuis 5 ans, 10 ans, c'est souvent le pire. C'est celui qui est le plus exigeant. C'est celui qui n'est jamais content parce qu'il n'a pas la place qu'il voulait, etc. Ce n'est pas le bon client. C'est le bon client d'un point de vue comportemental, il revient. D'un point de vue attitudinal, c'est-à-dire dans sa relation à l'établissement, ce n'est pas le meilleur client. En marketing direct, quand on parle vraiment des fichiers clientèle, on parle du 80-20-30. 80% des personnes qui sont dans notre fichier représentent 20% seulement de notre chiffre d'affaires. Très intéressant. Et en même temps, 80% de nos clients, 20% de nos clients représentent 80% du chiffre d'affaires. Vous avez typiquement les spectateurs réguliers qui viennent systématiquement, qui adorent tous les spectacles, etc. Puis celui qui vient de manière occasionnelle. Mais on oublie les 30. Ces 30%-là, c'est ceux qui viennent et qui vous coûtent de l'argent, de l'énergie et vous cassent le moral parce qu'ils sont toujours en train de critiquer. Donc je ne vous dis pas qu'il faut ne pas les accueillir de la bonne manière, mais il faut aussi être en capacité de gérer un peu cette situation et de ne pas les garder en situation de privilège. Ils ont le sentiment, ils sont dans une logique d'acquis, de privilège. Et donc essayez, alors je ne dis pas que c'est simple, si les techniques elles existaient, elles seraient déjà en place, mais en tout cas de faire attention à ça, c'est-à-dire que le client que l'on considère comme fidèle, l'abonné, méfiez-vous, ce n'est pas forcément la meilleure technique, ou en tout cas, il faut essayer de les sensibiliser à une approche qui soit un peu différente. Ils ne sont pas des ayants droit, ils sont ceux qui ont l'antériorité, qui méritent certainement tout votre respect et tous vos bonjours, etc., parce que vous les reconnaissez, mais ce ne sont pas, c'est pas en tout cas sur eux qu'il faut se focaliser, parce que ce sont les plus critiques. Donc faites attention à ça, soyez vigilants, et puis vous le savez, et puis j'aurais tendance à dire déculpabilisez-vous par rapport à eux, osez leur dire que non, c'est pas comme ça que ça marche, parce qu'il y a aussi les autres, et ça finit par faire que dans le spectacle vivant, on finit par avoir que les têtes blanches, c'est-à-dire qui payent pas grand-chose parce qu'ils ont en plus des réductions. Enfin bon, donc soyons un petit peu critiques et osons l'être, parce que ce ne sont pas eux l'avenir du spectacle vivant. C'est pas... je passe maintenant la parole à Ludovic pour parler des techniques de segmentation.
Donc maintenant, le moment est pour moi de vous présenter quelques techniques, je dirais un peu mathématiques, statistiques, d'analyse des publics et de CRM à partir de la phase où vous avez récupéré, disons sur un fichier Excel, la liste de vos spectateurs historiques qui est bien renseignée avec suffisamment d'informations. Vous avez sur chacune des lignes le nom d'un spectateur, son adresse email et éventuellement que la personne a accepté de recevoir des mails. Comment, à partir de là, on peut faire vivre cette base de données? Donc, le premier outil qu'on a pu développer sur notre interface est un outil qui s'appelle un outil de segmentation des publics. C'est quelque chose que vous connaissez. Alors, j'ai rencontré beaucoup de théâtres qui m'ont souvent dit « Moi, je fais de la segmentation des publics. » Alors, je pose un peu la question, je creuse, je me demande « Mais sur quelle variable est-ce que tu segmentes ?» Alors, ce qu'on va me dire souvent, c'est bah, « D'un côté, je vais mettre les personnes âgées. De l'autre côté, je vais mettre les jeunes. » Et puis, en haut, les hommes et en bas, les femmes. OK. La question, c'est quels sont les critères pertinents de segmentation? L'idée de la segmentation, par exemple, si vous faites une newsletter sur l'ensemble de votre base, l'idée, ça va être de faire, par exemple, 4 newsletters segmentées selon 4 profils de public qui sont homogènes. Alors, la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux parler à un profil homogène qui est homogène du point de vue de l'identité, c'est-à-dire qu'il a à peu près le même âge, même sexe, qu'il est à peu près dans la même zone de chalandise, ou est-ce qu'on va segmenter les publics selon leur manière de consommer le spectacle? Et ce qu'on a entrepris de faire, c'est d'essayer d'apporter dans cette segmentation des publics toutes les variables de consommation. Par exemple, un segment de public pertinent, ça va être les gens qui sont fans de la marque du théâtre et qui sont plutôt du style de vie épicurien. Ça, c'est un groupe, un segment de public qui est cohérent et on peut l'adresser et communiquer avec lui avec un même état d'esprit. Et pourquoi on ne va pas mettre d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, d'un côté les personnes âgées et de l'autre côté les jeunes? C'est parce qu'une femme de 60 ans peut très bien consommer une pièce de théâtre de la même manière qu'un jeune de 15 ans. Donc si vous êtes cohérent avec votre stratégie CRM, vous allez leur parler de la même manière, même s'ils n'ont pas le même âge et le même sexe. Et donc, l'idée finalement de votre personnalisation de la communication, de votre mailing un peu personnalisé, si vous faites un peu de mailing, ça va être de parler aux gens de la même manière, aux gens qui consomment de la même manière et pas qui sont nés de la même manière. Alors, typiquement, des segments qui peuvent avoir du sens, c'est les fans de théâtre contemporain qui viennent pour un théâtre parisien de province. Un autre cas, c'est les cadres CSP+, qui habitent à moins de 10 km du théâtre et qui viennent seulement le vendredi soir. Ces gens, ils peuvent être très variés d'un point de vue, je dirais, démographique. Et pour autant, il est pertinent de leur écrire ou de les communiquer avec eux, d'avoir une relation personnalisée avec eux de la même manière. Voilà, c'est l'idée de dire la segmentation des publics, elle peut se faire d'une autre manière que juste en disant « bon, je prends mon fichier Excel, je le coupe en 4 parce que je sens bien que c'est le sexe et l'âge qui vont être pertinent dans ma segmentation, et j'envoie un mail à chacun. » Ça, voilà, c'est une première stratégie qu'on a pu mettre en place qui prend en compte les variables, la distance à votre théâtre, qui peut être enseignée grâce au code postal, qui peut être la fidélité, est-ce que c'est quelqu'un qui est très récurrent ou non, qui peut être la récence du spectateur, est-ce que c'est quelqu'un, peut-être qu'il est venu beaucoup, mais peut-être qu'il est venu beaucoup il y a 10 ans, que maintenant il n'est plus venu récemment. Et on voit... Ça peut être l'opérateur mail. Alors, je vous donne un exemple de segmentation qu'on a pu faire. On avait mis l'opérateur mail des gens, Gmail, Wanadoo, Outlook, dans l'analyse statistique. Et l'objectif de l'algorithme statistique, c'est de dire bah, quelles sont les variables qui sont pertinentes pour segmenter. A priori, on aurait dit l'âge, le sexe, la distance au théâtre. Ça peut expliquer une certaine assiduité ou non. Et en fait, la variable qui est sortie par l'algorithme mathématique la plus efficace, c'est l'opérateur Gmail. C'est-à-dire que le fait que vous ayez Gmail, ça a encouragé l'abonnement de plus 70% par rapport à Wanadoo. C'est quelque chose d'extrêmement bizarre. On s'est dit, mais moi, en tant que responsable billetterie, j'aurais jamais pensé que c'était les Gmail qu'il fallait relancer en premier pour leur vendre de l'abonnement. Pas du tout. Et en fait, l'algorithme statistique, il a dit, bah, en général, les Gmail, ceux qui sont sur Gmail, ils sont plus récurrents sur cette structure particulière. Alors bien sûr, il y a derrière des explications. Peut-être les Gmail, c'était plutôt les jeunes, un peu digital. L'objectif de l'algorithme mathématique, ce n'est pas d'expliquer des liens de causalité. Mon seul rôle, c'était de leur dire, bah, mais si, regardez, c'est vos Gmail qui sont les plus chauds, relancez-les. C'est le moment. Donc voilà, c'était une, je dirais, voilà.
Ouais, la terminologie veut qu'on parle des prospects chauds, c'est-à-dire ceux qui réagissent un peu plus, etc. Voilà, c'est la terminologie. Ils sont plus chauds, c'est dans ce sens-là.
Oui, pardon. C'est des publics très assidus,
c'est
je dirais.
C'est du vocabulaire. Hein, c'est...
Voilà. Oui, c'est pas... Bien sûr. Non, pas du tout. Voilà, donc ça, c'est l'idée de la segmentation. Je vous parle d'une autre stratégie. Et je vais passer rapidement sur le... Alors, je vais venir directement à cette slide. Alors, une autre stratégie mathématique qui peut être utilisée sur votre base de données s'appelle le scoring. Alors, le scoring, c'est quelque chose qui est très classique dans la banque, la finance ou l'assurance. On va vous mettre une note en tant que spectateur. Une note, selon quoi ? Selon la probabilité que vous veniez au prochain spectacle. Typiquement, vous ouvrez un nouveau spectacle qui va durer 3 semaines. Vous souhaitez l'annoncer à vos publics. Là, la meilleure stratégie, c'est pas d'envoyer le même mail à tout le monde. C'est comme j'ai dit précédemment, peut-être de faire de la segmentation des publics pour envoyer 2, 3 ou 4 mails différents selon la manière de consommer de chacun. Puis à partir de là, je veux savoir qui sont les spectateurs historiques de ma base de données qui ont le plus de chances, plus de probabilités de venir à ce nouveau spectacle. Parce que j'ai envie d'adapter ma communication. Peut-être que certains, je vais leur envoyer un cadeau pour qu'ils puissent acheter un abonnement cette année ou qu'ils viennent à ce spectacle. D'autres, je n'ai même pas besoin parce que je sais que de toute manière, ils ont toutes les variables, ils ont tous les bons indicateurs pour venir sans que je fasse rien. Il y en a peut-être, il y a certains théâtres qui s'y mettent, j'aurai besoin de leur envoyer un SMS. Je vais dire attention, il y a une pièce qui s'ouvre. D'autres, ils vont peut-être avoir besoin d'une offre commerciale. Christine parlait tout à l'heure de conquérir une deuxième personne de notre écosystème à venir avec nous pour ne pas être tout seul au théâtre. Est-ce qu'on ne dirait pas, monsieur, ça fait 3 ans que vous êtes venu au théâtre 3 fois, si vous venez une 4e fois, je vous donne moins 30% sur la deuxième place. Ça, c'est une stratégie que vous n'êtes pas obligé de faire à toute votre base de données parce qu'il faut bien que quelqu'un paye à un moment le plein tarif. Mais c'est une stratégie pour dire, y en a, ils auront besoin de ça pour venir. Et en fait, pas tout le monde n'aura la même appétence à venir au spectacle. Et donc, c'est ce qui s'appelle un score. C'est-à-dire que l'algorithme mathématique va calculer un score. Il va dire, voilà, vous, monsieur Borde, vous avez 77% de chances de venir à ce spectacle. Donc là, en fonction de la stratégie marketing du théâtre, il y en a certains qui vont dire, bon, 77, c'est bon, il viendra tout seul. Je vais m'occuper de ceux qui ont 10%. Je vais leur envoyer un cadeau, les encourager, leur faire de l'incitation tarifaire. Je vais leur envoyer toutes vos stratégies classiques. D'autres vont dire, oh là là, le 77%, je ne suis pas sûr de l'avoir, je vais être sûr. Donc, je vais par exemple l'appeler au téléphone pour lui dire, monsieur Borde, on vous connaît, vous êtes un bon client, vous êtes un bon spectateur, revenez cette année, il y a telle pièce qui va vous intéresser parce que vous aimez plutôt tel type de spectacle. Voilà, ça c'est un deuxième outil. Alors, bien sûr, ces outils ne sont pas forcément adaptables à toutes les structures. L'idée, c'est qu'ils vont, voilà, ils vont dépendre de votre contexte, de votre chalandise et votre type de public. Un troisième outil, le géomarketing. Alors là, c'est quelque chose de, je dirais, d'assez classique. L'idée, ça va être d'analyser le lieu géographique d'habitation de vos spectateurs. C'est quelque chose que vous faites sans doute déjà. Ça peut avoir un impact sur votre affichage, votre stratégie de communication. Typiquement, j'en compte beaucoup de théâtres à Paris qui sont en mesure d'adapter leur campagne de communication au cours de la campagne de commercialisation. Imaginons qu'ils avaient prévu que l'est de la ville achète beaucoup, peut-être qu'à 2 semaines de l'ouverture du spectacle, ils vont modifier l'affichage dans le métro en fonction des premiers achats qu'ils ont pu enregistrer dans leur logiciel billetterie. Ça, c'est quelque chose d'un peu plus simple qui n'a rien de finalement de très mathématique, mais qui vous permet, en quelques clics, de savoir d'où viennent vos spectateurs en moyenne et au cours de la campagne. Alors ensuite, je vais passer très très rapidement vous donner un exemple d'un outil qu'on a démontré. C'est juste pour vous mettre dans l'état d'esprit du CRM. L'idée de ce CRM, c'est d'identifier les clients, de segmenter finalement toute la base de votre base de données publique en groupes de consommateurs ou de spectateurs homogènes. Ensuite, c'est d'adapter votre offre et vos modes de communication avec chacun d'eux. Alors là, on est vraiment dans le best de la stratégie CRM, mais l'idéal, c'est que chacun puisse recevoir une communication et une offre commerciale qui correspond à ses attentes et à sa manière de consommer. Parce que moi, je ne vais pas consommer la même manière du théâtre que Christine, parce qu'on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes raisons d'aller au théâtre, on n'a pas la même distance avec la salle, et donc on n'a pas le même affect vis-à-vis du théâtre, et donc ça va être très adaptatif. L'idée, c'est d'échanger aussi avec les clients en créant des campagnes, par exemple, de mailing ciblé, et puis de mesurer la fidélisation en temps réel. Ça, c'est vraiment un indicateur très fort pour dire est-ce que la stratégie CRM marche, c'est est-ce que les gens sont plus fidèles, tout simplement. Donc, on mesure un taux de fidélité moyen sur l'ensemble de votre base de données, et on voit si, dans votre stratégie CRM, vous progressez de saison à saison sur la fidélisation. Christine, je vous laisse présenter juste l'ouvrage que vous...
Ah oui, en fait, j'avais rajouté d'autres références, mais c'est pas grave. Je vous engage à aller... c'est pas grave. Vous pouvez regarder celui-là, c'est un ouvrage qui a été fait récemment. Il y en a d'autres, sinon, sur tout ce qui est... Enfin, sur les problématiques qu'on a un petit peu évoquées, sur l'abonnement, comment parler au-delà de la fidélité... sur le fait que comment mener des études de public, sur le fait aussi que quelle est l'utilité, la nature du discours qu'il faut orienter. Ça, je peux vous envoyer. Je vous enverrai la liste d'un certain nombre de publications parce que, entre autres, ce sur quoi il faudrait quand même insister, c'est en termes de segmentation des publics, on sait que la CSP, c'est quand même important, hein, que l'âge, la classe sociale, c'est important. On sait aussi que la proximité géographique, le fait de ne pas avoir trop de route à faire pour aller au théâtre est essentiel, mais au-delà de ça, c'est complètement insuffisant. C'est-à-dire que quand il y a des études qui sont faites pour voir quelle est la différence entre un prononce, par exemple, sur des œuvres qui sont, on va dire, un peu pointues ou contemporaines, le problème de fond, c'est que entre un public, entre le profil en termes de catégories sociodémographiques, en termes de CSP, vous savez que Bourdieu nous a bien expliqué capital culturel, capital financier, capital. Le problème de fond, c'est qu'entre quelqu'un qui a les moyens, le niveau d'études suffisant ou attendu pour être présent dans un établissement de spectacle vivant et qui y va, et une personne qui a le revenu, le même niveau de diplôme, mais qui n'y va pas, et ben finalement, c'est exactement les mêmes personnes. Donc, c'est autre chose. Il faut aller au-delà de ces dimensions sociodémographiques. On sait que la proximité, c'est une variable très forte. On sait que sur le sexe, par exemple, il y a un élément très, très important, c'est les arguments à mettre en avant. Quand on étudie le comportement, les femmes et les hommes, pour expliquer pourquoi est-ce qu'elles vont de manière, ou ils vont de manière occasionnelle, dans un théâtre, entre les hommes et les femmes, c'est pas du tout les mêmes arguments. Les hommes vont argumenter sur le fait que l'œuvre ne leur plaît qu'à moitié ou ceci, etc. sont sur un discours sur le contenu. Les femmes sont sur un discours sur les problèmes logistiques. Est-ce que je peux m'organiser pour venir ? Ça, c'est le premier problème. Donc, il y a beaucoup de choses. Il faut aller vraiment en finesse. On sait aussi que dans les outils qu'a présenté Ludovic, il y a des choses en fait qui sont des outils de statistiques qui sont peut-être un peu a priori pas très agréables à aborder, mais qui permettent vraiment de repérer des profils, c'est-à-dire il y a des calculs statistiques pour repérer en fait des profils type un individu qui n'existe pas, mais qui est une moyenne d'un certain nombre de caractéristiques à la fois objectifs, descriptifs de sociodémographie, mais aussi en termes de goût, en termes de pratiques, de valeurs qui vont se ressembler. Et en fait, l'idée, c'est de se retrouver ces 4-5 publics types, un peu ces prototypes d'individus, et après d'essayer de repérer ce prototype d'individu, à quoi il ressemble, où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il s'informe, comment je peux le convaincre, et à partir de là, essayer d'avoir des stratégies donc de communication, de lieu de distribution de l'information, ce qui est différent. Il y a le message que l'on diffuse, c'est de la promotion. Il y a le prix, mais le prix, attention, dans le spectacle vivant, dans la culture, c'est quand même un petit peu un sujet sensible et sur lequel on n'a pas le droit de jouer comme on veut. Mais il y a cette idée, de la place. En marketing, le marketing opérationnel, c'est 4 P. C'est le produit. On a dit, dans le domaine artistique, on n'a pas le droit d'y toucher. On a le droit de toucher aux produits dérivés, à ce qui est autour du produit, à ce qui est autour des offres. Donc, le produit, c'est une chose. Le prix, on ne peut pas trop toucher parce qu'en fait, il y a des classements. Si vous êtes jeune, si vous êtes vieux, si vous êtes chômeur, okay, vous avez vos tarifs. Si vous êtes famille nombreuse, pour les autres, bah, vous payez. Ou vous êtes abonné, vous avez peut-être quelques réductions. Donc, le prix, c'est en fait, entre guillemets, c'est plié. On ne peut pas y faire grand-chose non plus. Donc, il y a la communication, il y a la promotion. Celui-ci, on peut faire des choses. Il faut effectivement utiliser les bons arguments vis-à-vis des bonnes personnes. Il y a le vocabulaire, mais il y a aussi comment on va toucher les individus, comment on va motiver des parents, par exemple, à venir parce qu'il y a une idée de transmission générationnelle, parce qu'ils ont envie de faire passer des choses auprès de leurs enfants. Et ça, on sait que c'est très important. Il y en a d'autres qui vont venir parce qu'ils ont envie d'être touchés eux-mêmes en termes d'émotion. On va quand même au théâtre. C'est pas parce que c'est parce qu'on cherche quelque chose. On cherche quelque chose qui est un petit peu différent de ce qu'on peut trouver en temps normal partout, à la télévision ou sur Internet. Et il y a le dernier point, c'est cette idée dans marketing, on parle de place, c'est l'emplacement. Donc théoriquement, c'est à quel endroit va-t-on mettre les produits à disposition. Donc en France, aujourd'hui, grâce à les décentralisations culturelles, on a à peu près la possibilité de trouver des spectacles et des choses à voir pas trop loin de chez soi, partout en France. Par contre, il reste une notion dans la place, quand on est sur la culture, c'est qu'il y a la notion de la légitimité. C'est l'accessibilité symbolique. Est-ce que c'est un œuvre pour moi? Est-ce que je me sens le droit de venir? Et un des problèmes majeurs, entre autres, du spectacle vivant, c'est quand vous mettez ces fameux jeunes qu'on essaie absolument de faire venir dans les spectacles, dans les théâtres, c'est que quand ils regardent autour d'eux, il n'y a que des têtes blanches. Donc c'est vachement fun d'aller au théâtre. Il n'y a que des vieux. Donc là, il y a un vrai travail. Après, il y a les produits pour les jeunes. Certes, c'est très bien, mais c'est pour les jeunes. Donc il y a vraiment un travail à faire par rapport à tout ça. Il y a des pistes. Il faut aller vraiment en finesse. Vous avez une connaissance, une expertise. Il faut effectivement juste la rationaliser ou la formaliser de manière à ce que quand d'autres collègues viennent travailler avec vous, vous puissiez capitaliser sur vos expériences et vos expertises. Je dirais ensuite que sur les géomarketing, il y a des pistes en termes de mobile, de marketing mobile. Pensez qu'on est de plus en plus sur des consommateurs, des spectateurs, où là, on est en concurrence. Je vais au théâtre ou je vais au cinéma ou je vais boire un coup avec des amis. C'est complètement différent. Par contre, potentiellement, c'est la même chose. Un spectacle, ça ne dure que 50 minutes parfois. Donc, ça peut se jouer. Et après, je peux très bien aller en boîte de nuit ou faire autre chose. Mais encore faut-il que je sache et qu'il y ait une information, des alertes sur des mobiles. Et il y a des choses à faire. Et aujourd'hui, les sites internet des théâtres ne sont pas encore pensés de manière suffisamment mobile. Donc il y a vraiment des choses à faire par rapport à cette idée de mobilité, par rapport à l'idée du scoring. Effectivement, on attribue c'est de l'analyse discriminante qui identifie que compte tenu de tel et tel critère, vous devriez être plutôt intéressé par telle œuvre. Maintenant, là où il y a des défis par rapport au spectacle vivant, c'est qu'on est aussi, non pas dans l'objectif de vous faire consommer ce que vous auriez forcément consommé, ce qu'on veut, c'est aussi vous faire découvrir des choses que vous n'auriez peut-être pas eu l'idée de découvrir. Donc là, il y a vraiment des enjeux, vous avez toute la finesse qu'il faut, il y a des outils, voilà. Donc mettez tout ça ensemble et on devrait réussir à faire des choses intéressantes pour le bien du développement des consommations culturelles. Voilà, on est à votre disposition pour toutes les questions.
J'ajouterais sur cette... On parlait juste au tout début de l'organisation de TMN Lab et de notre dernière rencontre avec la sociologue Dominique Pasquier, qui parlait de la sociabilité de la sortie au théâtre et des critères de choix. Et du coup, j'ajouterais, parce que c'est toujours très intéressant de croiser ces études-là des publics dans cette démarche sur les critères dont tu parlais au début.
J'avais juste une question, alors je suis sorti une minute, j'espère que vous ne l'avez pas évoqué pendant ce moment-là. C'est plus une question sur la pertinence et l'efficacité de l'usage de l'ensemble des éléments qu'on peut récupérer dans les bases de données. Pour préciser ma question, je donne juste un exemple qui est un témoignage très court sur une situation que j'ai pu vivre il y a quelques années. Donc j'étais responsable de la communication d'une scène nationale. Je dis une scène nationale parce que c'est important pour ma question, c'est-à-dire un lieu pluridisciplinaire et un lieu où il y a beaucoup de spectacles différents dans la saison, près d'une cinquantaine pour la plupart des scènes nationales, et des genres et des disciplines très différentes. Et avec l'arrivée des logiciels de billetterie, les personnes aux relations publiques ont pris en main ces logiciels et on a commencé dans les réunions de relations publiques, dès qu'un spectacle était un petit peu en difficulté de remplissage, à se dire bon, bah, qu'est-ce qu'on va ressortir comme base de données des logiciels de billetterie ? Alors on va croiser les gens qui, sur les 3 dernières années, sont venus au moins 3 fois voir un spectacle de marionnettes, parce que le spectacle concerné est un spectacle de marionnettes. Ça a eu une certaine efficacité, mais au bout d'un moment, au bout d'un an, 2 ans, moi j'ai commencé à me questionner vraiment sur l'efficacité de cet usage systématique de ces techniques, même si là, les croisements, la segmentation n'est pas très... très très pointu, ça en reste une quand même. Notamment, donc ça, après ça passait par un envoi, un emailing en fait à ces personnes. Alors déjà une remarque, les logiciels de billetterie qu'on utilise ont des logiciels d'emailing très sommaires qui ne permettent pas une analyse de l'efficacité de cet envoi. On ne sait même pas si les mails ont été envoyés. Donc l'obligation d'acheter un logiciel d'emailing en plus, bref, ça c'est un autre problème. Mais je me suis rendu compte quand même, avec l'achat d'un logiciel d'emailing type Sarbacane et autres, qui permettent au moins logiquement de vérifier si la personne a ne serait-ce qu'ouvert le mail qu'on lui envoyait, que sur 1 an, 2 ans, 3 ans, au bout d'un moment, ce qui était, je ne sais plus les chiffres exacts, mais de 30% d'ouverture du mail, on était passé à 10-15%. Et j'avoue que j'avais absolument pas le temps, ni la personne à la billetterie, de faire une analyse plus précise pour savoir entre l'envoi du mail et l'achat d'un billet, enfin de comparer l'emailing avec l'état des ventes. On n'avait jamais le temps de le faire. Donc au bout d'un moment, on se demandait vraiment si c'était efficace. Et ça créait une espèce de choses qui faisaient que toutes les réunions relations publiques tournaient, j'exagère, mais c'était un peu ça, tournaient autour de quel prochain emailing on va pouvoir faire et qu'est-ce qui va être l'emailing le plus efficace, et que parallèlement à ça, on oubliait un peu progressivement quand même de se poser d'autres questions sur d'autres méthodes de relations publiques et de communication. Donc ma question est aujourd'hui, est-ce qu'il y a des techniques qui permettent une analyse, en marketing en général, pas forcément dans le domaine culturel, mais une analyse vraiment précise de l'efficacité de ces campagnes basées sur des segmentations de public.
Ah, déjà, j'aurais tendance à dire qu'il faut savoir que sur un emailing, enfin sur tout ce qui est technique de marketing direct, c'est-à-dire quand on envoie directement à la personne, les taux de remontée, enfin les taux de, on va dire, taux d'ouverture, taux de remontée, sont faibles. Point. Déjà, quand on est à 0,5% de taux de remontée, on est content. Donc voilà, déjà, premier principe. Quand on est sur une population qui nous connaît, donc déjà considérée comme fidèle, on peut espérer un taux de remontée en général de 8%. Donc c'est déjà pas beaucoup. Vous en avez envoyé 100 emails. Alors remontée, ça veut dire qu'il y a un retour. C'est-à-dire qu'il y a un taux d'ouverture, éventuellement les gens vont un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'ils reçoivent l'email, ils vont cliquer sur le lien. De manière générale, c'est ça. Donc déjà, de toute façon, ces techniques de marketing direct, elles ont de très mauvais... Enfin, non, c'est pas ça. Mais elles sont conçues pour aller sur des milliers, voire des millions d'individus. Donc effectivement, un taux de remontée de 8% quand on a 10 millions d'envois, ça marche, c'est bon. Sauf que quand on est un établissement dont la gère de chalandise est quand même bien limitée, et qu'en plus on est en train de travailler sur nos abonnés ou sur des gens qu'on connaît bien qui sont peut-être en train de venir régulièrement et qui ont aussi autre chose à faire que d'aller tous les jours, enfin à chaque fois qu'il y a un spectacle sur lequel en plus si personne vient, enfin si on a du mal à faire la jauge, c'est qu'il y a peut-être déjà un problème de notoriété ou autre chose, c'est pas étonnant que les résultats entre guillemets soient mauvais. En plus il y a un effet très clair, c'est qu'entre recevoir un message, en plus déjà, de qui vient-il ce message ? Est-ce que c'est l'accueil, hâte, etc. ? C'est complètement différent de, justement, je parlais de la relation, du fait que vous soyez connu, que vous serriez des mains, que vous soyez là, et que quand c'est, Christine Duroc qui vous écrit parce que vous savez qu'elle est là, qu'elle vous serre la main, qu'elle vous dit « alors, est-ce que vous avez bien aimé ?» etc. Ça n'a rien à voir, déjà. Donc, premier problème. Il y a des études en psychologie qui s'amusent à jouer sur est-ce qu'on met les similarités de prénoms. Donc, une Christine qui écrirait une autre Christine, ça marche mieux, sauf qu'on ne va pas inventer des personnages fictifs. Mais ça marche vachement bien. Hein, ça, c'est, les taux sont extraordinaires.
C'est effectivement ce qu'on avait mis en place. C'est-à-dire que c'était, ça partait des boîtes mail, enfin du nom d'une boîte
personnelle,
mail.
Personnelle, déjà, ça,
de
c'est
quelqu'un
mieux.
Des relations publiques. Et par les gens avaient vraiment l'impression d'avoir une invitation personnelle.
Personnelle, oui. Donc déjà, ça améliore les choses. Maintenant, au bout d'un moment, l'idée, c'est que forcément, C'est comme tout, il ne faut pas la surexploiter. Ça devient, quand l'individu qui est en face de vous, et je parle bien d'un individu, on n'est pas en train de parler de spectateur ou de consommateur, quand la personne en face de vous s'aperçoit qu'elle reçoit ça parce que tout simplement il y a un problème de jauge et qu'il n'y a personne, au bout d'un moment, ça ne peut pas fonctionner. Donc j'aurais tendance à dire que face à des problématiques où c'est ce n'est pas une stratégie de relation en fonction des goûts de la personne, c'est je veux remplir ma salle qui est au secours. Et donc là, on appelle tout de suite la com en disant la com, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi il n'y a personne? On ne s'est jamais posé la question de la programmation, de la pertinence du lieu. Non, c'est la faute du communicant dans ces cas-là. Si on vient vers vous dans cette logique-là, c'est un peu normal que ce soit difficile et c'est en plus un peu normal parce que certainement vous n'avez pas beaucoup de temps pour écrire votre message, qu'il n'est peut-être pas hyper personnalisé effectivement à chacun des individus. Donc j'aurais tendance à dire, c'est normal que ça ne marche pas et ne vous faites pas de mea culpa inutile. Ce n'est pas votre faute. L'erreur, elle vient avant en termes de programmation, peut-être de pertinence des moments. Et puis parfois, ça ne doit pas fonctionner. Donc j'aurais tendance à vous dire, dans ces cas-là, exploiter non pas la communication, mais la vraie médiation, la médiation culturelle, en essayant de se dire comment est-ce que le contenu, les marionnettes, ok, c'est un point de départ pour peut-être, mais enfin on n'est pas tous monomaniaques de, il y a des marionnettes, je vais voir toutes les marionnettes, enfin quel est le pourcentage de gens qui sont monomaniaques sur un genre, ça n'existe pas. Donc il faut trouver autre chose, c'est quoi le sens, comment ça peut rebondir? Alors c'est facile sur des spectacles qui existent déjà, que vous avez peut-être été voir dans un autre établissement, donc vous savez en parler, vous pouvez avoir des choses à dire, mais quand c'est une création, c'est plus compliqué. Donc non, il n'y a pas de technique miracle, c'est normal que ce soit difficile. Donc j'aurais tendance à dire, cherchez plutôt sur le sens de l'œuvre qui est à proposer, comment elle peut résonner d'un humain à un autre humain. Et peut-être à ce moment-là, créer, on parlait du lien, essayer de voir s'il n'y a pas possibilité de créer une envie d'une petite communauté, même si 5-10 personnes qui ont envie de venir, qui sont peut-être invitées avec possibilité de rencontrer avant, après, enfin les principes des ateliers. Et je suis désolée, mais dans ces cas-là, il n'y a que la médiation, la vraie médiation culturelle qui marche et qui peut être une clé d'entrée. Après, ça peut être l'effet catalyseur, ça va être l'effet boule de neige pour donner envie. Mais ce n'est pas des techniques. Je suis désolée, ça ne marchera pas. Ça ne suffit pas. Ou alors, c'est en espérant que les gens fassent 200 km et puis voilà, couvrir toute la Bretagne, on va bien faire venir les gens. Non. Ou alors les tarifs promotionnels, mais vous savez que vous faites gratuité, ça ne sert à rien. La gratuité ne sert pas, ça ne fait pas venir les gens. Si les gens n'ont pas envie, parce qu'il y a quelque chose de plus, ils ne viendront pas. Donc, c'est quand ça ne fonctionne pas, il faut trouver d'autres solutions que que des aspects technicistes. Il faut mettre du sens, il faut mettre de la chair, il faut mettre de l'humain.
La première hypothèse de médiation est déjà dans la question, pourquoi je programme ce spectacle? Et du coup, dans l'équipe des relations publiques, cette question elle est toujours en tête. Et pour le coup, ça interroge un petit peu l'ancrage théorique que vous avez présenté sur le marketing contemporain. Je trouve que le focus aujourd'hui, ou l'enjeu, il n'est pas tant que sur la fidélisation, mais aussi sur le recrutement pour fidéliser. C'est-à-dire que si je n'ai pas, dans mon discours un peu politique de responsable de lieu, la possibilité d'élargir les publics, de faire en sorte qu'ils soient plus dans l'intergénération, que ça soit moins dans des oppositions entre têtes blanches, ayant du temps pour sortir, c'est peut-être un cliché, et des jeunes qui peuvent être interrogés aussi par cette présence de têtes blanches, ou des têtes blanches interrogées par le bruit que font les jeunes, etc., etc. Pour ne pas être trop dans cette opposition-là, il y a quand même un grand enjeu de recrutement, mais directement dans le lien, directement dans la fidélisation. Et c'est peut-être aussi, en faisant référence à la première intervention sur les open data, c'est peut-être là qu'on va trouver des solutions intermédiaires pour rapidement recruter, fidéliser, quoi. C'est-à-dire créer le lien, mais ça répondra toujours à la première question. Pourquoi j'ai programmé ça ici ?
Ouais. Alors, on ne va pas refaire le monde, mais je crois que l'idée, elle est quand même sur le principe, c'est qu'il faut quand même penser ces lieux en se demandant mais pourquoi ils sont là. Au lieu d'aujourd'hui, on est un peu dans une démarche où finalement, ce qui compte, c'est de faire fonctionner le lieu. Non, pourquoi nos lieux sont là et quelles sont nos missions? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut être en tant qu'acteur socio-économique, etc. Et par contre, je ne dis pas que c'est simple, compte tenu des contraintes budgétaires, des objectifs, enfin, tout ce qu'on connaît, quoi. Mais je crois que ouais, c'est vraiment ça l'idée. C'est comment être présent et avec quel projet.
Pour compléter aussi sur la conquête dont vous parlez de nouveaux spectateurs, je pense qu'une des meilleures stratégies, on l'a déjà évoqué, de conquérir des nouveaux spectateurs, c'est de les conquérir dans les relations proches des spectateurs fidèles. Et donc, en fait, finalement, cette conquête, elle passe aussi par une fidélisation forte et une médiation culturelle forte vis-à-vis des déjà spectateurs. Exactement, de trouver des ambassadeurs, de trouver des gens qui vous cooptent la pièce, le spectacle, la salle. Et donc, en effet, ça correspond vraiment à ce que vous dites, c'est-à-dire c'est une conquête fidélisation qui vont de pair.
À ce niveau-là, je pense qu'il y a tout un travail à faire qui consiste à convaincre nos politiques et qu'ils arrêtent d'instrumentaliser la culture. Mais ça, hélas, ça nous dépasse un peu. Mais il faut qu'on essaye, en tout cas. Est-ce que vous auriez d'autres questions ?
Par rapport aux différents logiciels de billetterie que vous avez rencontrés, je voulais savoir, à votre avis, pourquoi ils sont, c'est si difficile d'avoir des outils CRM développés par ces logiciels de billetterie. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a fait une recherche là, récemment de logiciels, et c'est mais hyper compliqué de trouver un logiciel performant sur ces questions-là, voire quasiment impossible de les trouver.
Alors, je pense que il y a plusieurs types de logiciels billetterie au point de vue technologique. Il y a ce qu'on appelle les logiciels billetterie client-serveur qui sont installés sur vos propres serveurs et des logiciels billetterie nouvelle génération qui sont dans le cloud, qui sont donc hébergés, ce qui s'appelle en SaaS. En fait, il va y avoir deux types de technologies par rapport à ça. Je dirais que les logiciels billetterie ancestraux, dont qui équipent encore beaucoup de salles, ont été construits exclusivement pour faire de la billetterie et leur base de données, leur structuration d'architecture système n'est pas faite aujourd'hui pour faire du CRM. Et donc nous, ça a vraiment été la démarche en tant que start-up qu'on a pu adopter, c'est les rencontrer et leur dire ben, nous, on développe un logiciel CRM et un logiciel de pilotage des ventes. Est-ce que vous avez déjà ça ? Est-ce que c'est dans vos projets ? Et l'essentiel de la réponse, c'est oui, les salles le demandent. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on recommence presque à zéro. C'est-à-dire que l'architecture système, elle est faite pour vendre de la billetterie. Et elle n'est pas faite pour avoir la fiche client comme centre de la base de données, pour qu'elle soit modifiable, qu'on puisse l'enrichir, qu'on puisse la compléter, pour qu'on puisse créer des packages, pour créer des abonnements. Enfin, voilà, c'est votre quotidien. Mais c'est vrai que l'ensemble de la billetterie spectacle vivant est sur ce sujet peu fourni en CRM. Et je dirais que nous qui avons une vision aussi sur tout ce qui est station de ski, club de sport, festival, la problématique est à peu près équivalente. C'est-à-dire qu'on est sur des technologies qui sont peut-être un peu plus jeunes, notamment des solutions cloud, mais pour autant, la logique CRM n'a pas été pensée initialement. Et le travail d'un responsable billetterie pour ces solutions billetterie, c'est de vendre de la billetterie et d'édiquer des tickets. Nous, on est convaincus que non, que le responsable billetterie, c'est plus que ça. C'est un métier marketing, c'est un métier commercial au sens développement des publics, médiation. Donc c'est un métier qui, c'est pas un métier logistique, responsable billetterie. C'est un métier. Les logiciels billetterie, ils sont censés vous aider à faire ce travail purement logistique d'impression de billets, de distribution le plus simplement possible. Après, il devrait y avoir des acteurs, et c'est sur ce créneau qu'on a souhaité se pencher, qui vous rendent un travail CRM, relations publiques, statistiques, exploitation des bases. Presque clic-bouton, c'est-à-dire que vous ayez quelques analyses très simples à faire sans rentrer dans des débats d'architecture système compliqués avec le logiciel billetterie en place qui aujourd'hui ne sont pas forcément compétitifs sur cette notion de CRM. Et je dirais que dans d'autres marchés, dans d'autres industries, il y a des CRM qui sont adaptés à ces industries. Donc pourquoi pas dans le spectacle vivant.
Du coup, excusez-moi, Du coup, vous avez inventé des passerelles entre les billetteries, c'est ça ?
Exactement. Nous, ça a été le travail qu'on a fait l'année dernière, c'est-à-dire on s'est mis en contact avec l'ensemble des logiciels billetterie du marché pour qu'ils nous envoient quotidiennement un export des ventes et un export client qu'on importe automatiquement dans notre base de données qui permet d'enrichir. Et donc, ça donne la possibilité à n'importe quelle salle d'avoir une analyse de ses publics sans jamais intervenir. Et c'est ça, nous, c'était vraiment un vrai enjeu pour nous. Si on vous demandait de faire un export toutes les heures, c'était cuit, quoi. Donc, il y avait vraiment une notion d'automatisation avec le logiciel billetterie, pour qu'il y ait un flux technologique de données qui soit mis en place. Et c'est quelque chose qu'on est en train de terminer.
Et avec quel logiciel de billetterie vous avez
Alors, aujourd'hui, on est connecté avec ceux que vous connaissez. On est connecté avec donc Secutix, mais vous commencez peut-être à les connaître, avec WizEvent. On est connecté avec Aparté, bien sûr. Enfin, tout Ticket Live. On est connecté avec Sirius. On va se connecter avec Ressources et Y très vite. J'en oublie encore. Avec Rodrigue, bien sûr. Ouais, on récupère toutes les données de Rodrigue. Digitique, bien sûr. 3e Mac, bien sûr. Voilà.
Et donc ça, c'est via les structures et pas
c'est toutes
via...
les structures, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, je rencontre une salle de spectacle qui me dit « Vas-y, fais une version d'essai gratuite de 2 mois, on te donne les données, on te signe un accord de confidentialité. » Et moi, j'envoie l'accord de confidentialité au logiciel billetterie qui m'envoie le flux de données le lendemain, quoi. Donc c'est comme ça que ça a été construit pour que la salle ait vraiment rien à faire.
On va prendre une dernière question et on passera au sujet suivant.
C'est complètement dans la même continuité. Quand on fait le choix, là, vous citez les opérateurs de billetterie, alors moi, forcément, bah, le mien, il n'est pas dedans. Quand on fait un choix de ne pas aller, par exemple, vers un gros opérateur de billetterie, type plutôt Sirius dans les scènes nationales, type Digitik dans la scène de musique actuelle ou WizEvent aujourd'hui, en fait, on est confronté à un espèce de problème où on est obligé de bricoler, de trouver d'un côté un CRM, de l'autre de travailler avec un outil de gestion de base, enfin de, on va dire de régie interne, plus de base de contact. Enfin, en gros, plus je compte même pas l'envoi d'emailing. Ouais. Et du coup, on se retrouve avec une multitude d'outils avec lesquels il est très difficile de communiquer les unes avec les autres, difficile de collecter des informations. Bref, voilà, c'est un vrai casse-tête et on a plutôt l'impression d'avoir des bâtons dans les roues, que les prestataires qui développent des produits pour eux. Et nous, on est un petit peu mis à l'écart. Et à chaque fois, il y a un truc qui ne va pas. Bah non, il faut du Drupal, et vous, c'est du WordPress. Après, on rentre dans des trucs techniques. Et à chaque fois, il y a un truc qui ne marche pas. Donc, voilà, au secours.
En fait, l'idée de la construction de notre outil, ça a été justement de penser à des acteurs comme vous, qui êtes, j'imagine, quand même en mesure de réaliser des exports sous des formats Excel, CSV de vos données. Et donc, on a la possibilité sur l'outil d'importer n'importe quelle base de données sous format Excel. Imaginons, vous faites un jeu concours sur Facebook, vous récupérez 100 listes d'emails qui sont opt-in, qui acceptent de recevoir des mails, vous pouvez l'intégrer dans la base de données CRM, à la main, tout seul, sans moi. Et c'est ça l'idée, c'est que vous soyez en mesure, à tout moment, d'interagir avec un système, même si on n'a pas une connexion en temps réel, ce qui peut s'envisager dans un deuxième temps, bien sûr, mais dans un premier temps, vous êtes capable d'importer n'importe quel export de votre système. Alors nous, on a facilité avec les grands logiciels pour que vous n'ayez même pas d'export à faire, que ça se fasse directement. Mais dans votre cas, par exemple, vous pouvez exporter, j'imagine, un format standard, l'ensemble de vos données, et les importer à la main directement dans la base de données, qui est en fait un silo de données unifié qui dédoublonne l'ensemble des sources et qui vous considère en fait une base de données unique.